président du conseil de surveillance du groupe PSA. Faut-il rappeler que vous avez été durant 10 ans président de la SNCF jusqu'en 2006. Vous avez été également directeur d'Airbus et d'autres fonctions sociales que l'on va évoquer d'ailleurs ce matin. Mais si on vous reçoit en ce dimanche, c'est d'abord en tant que président du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Expérimentation mise en place en 2017 par le gouvernement socialiste de François Hollande, enfin voté en 2016 et mis en place en 2017, dans une dizaine de territoires en France. Et vous aimeriez bien que cette expérimentation devienne pérenne, mais ce n'est pas encore gagné, on va en reparler. D'abord, l'esprit de cette expérimentation, c'est bien d'inventer un emploi pour tous, comme jadis on a inventé et on a imposé l'école pour tous.
Exactement. Il s'agit de matérialiser ce que prévoit le préambule de la Constitution, c'est le droit à l'emploi. Toute personne doit avoir droit à un emploi. Alors, comment abordons-nous le sujet ? Avec deux originalités. La première, c'est que on ne cherche pas à amener d'abord les gens vers des emplois existants. C'est ce que fait par exemple l'insertion par activité économique.
Non, là vous créez des emplois.
On crée l'emploi avec les personnes. Avec les personnes. On crée l'emploi et on crée une entreprise à but d'emploi pour cela. Et la seconde originalité, c'est que ça part du territoire. C'est-à-dire que ça n'existe pas si le territoire ne se prend pas en main. Si le territoire ne fait pas l'inventaire des chômeurs de longue durée, où prévoit les conditions dans lesquelles cette entreprise va pouvoir fonctionner.
Pour comprendre comment ça fonctionne, c'est grâce à un transfert d'indemnité chômage, alors directement vers une entreprise qui, en contrepartie, s'engage à créer un CDI pour l'équivalent d'un SMIC.
Absolument. Alors, le financement est assuré pour partie, pas totalement, mais pour partie, par une subvention de l'État qui, grosso modo, est à peu près égal à ce que coûte le chômeur de longue durée à la société française.
On dit que c'est un peu plus cher.
On dit que c'est un peu plus cher,
on va y
mais le calcul est très compliqué à faire et nous considérons que le calcul n'a pas été fait dans sa globalité.
On va en reparler dans un instant. Ce dispositif, il a profité pour moitié pour l'instant à des personnes dites invisibles, c'est-à-dire des personnes sans emploi qui n'apparaissaient plus dans les statistiques et les registres officiel.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dans le radar des appareils publics, que ce soit les caisses d'allocation familiale ou Pôle emploi, ou qui y sont de manière marginale et furtive. On a des cas absolument extraordinaires de personnes qui apparaissent et qui redisparaissent de ces radars. Et il faut aller les chercher.
Mais pour leur donner des emplois utiles, c'est quoi les emplois utiles?
Les emplois utiles, d'abord, c'est des emplois qui ne sont pas concurrents des emplois existants. Mm-hmm. Emplois privés ou emplois publics. Emploi utile, ça veut dire qu'ils rendent un service. Ce service peut être rémunéré ou pas rémunéré. Oui. S'il peut être rémunéré, ça aide évidemment à financer l'opération.
Donc ça peut être une aide aux devoirs, ça peut être des transports de personnes.
Vous avez trois grandes catégories.
Des emplois de service en majorité.
Vous avez des emplois qui ont une vocation, je dirais, de caractère écologique, recyclage, maraîchage. Des emplois de caractère aide à la personne, lien social. Aide aux personnes âgées, mobilité pour les personnes démunies, et tout ça on crée du lien social, garage solidaire, et puis également une aide à des entreprises. Il faut le faire de manière qu'ils ne soient pas concurrentes des artisans locaux ou des entreprises de services locales. Mais il y a des tas de petits services que personne ne rend et que l'on peut rendre, nous, grâce à ce mécanisme.
Ça veut dire que vous décrivez des emplois non marchands, des emplois non facturés.
Ah si, une partie est facturée.
Une partie,
bien sûr, est facturée. Et nous avons la nécessité de faire un chiffre d'affaires, parce que le coût complet d'un emploi est supérieur à la subvention de l'État.
Je voulais dire, en fait, des emplois non marchands, c'est ça que je voulais dire.
La différence est supportée par le chiffre d'affaires, ces emplois non marchands parce qu'ils ne sont pas rentables.
Et de toute façon, l'économie marchande, maintenant, elle est indissociable de l'économie solidaire et sociale. C'est une philosophie de vie, presque.
Ouais, c'est une philosophie, bien sûr. Et puis, en plus, c'est quelque chose de très pratique. On ne va pas, avec les subventions de l'État, détruire de l'emploi à côté. Donc, il faut que nous apportions des emplois supplémentaires. Et on s'aperçoit qu'il y a des tas de sujets sur lesquels nous pouvons apporter des emplois supplémentaires. Et que les personnes ont des compétences, parce qu'on dit aussi que ces personnes sont inemployables. C'est pas vrai. Tout le monde a des compétences. Et nous nous apercevons, nous trouvons des pépites là-dedans. Et je pense que c'est extrêmement important que chacun puisse développer son potentiel.
Alors, vous parliez des emplois, on va aussi parler des territoires qui génèrent ces emplois. Ce sont souvent des régions sinistrées. Sur quels critères ont été choisis ces
territoires ?
Alors,
les critères de choix, c'est essentiellement la capacité, la préparation du territoire. Ce ne sont pas toujours des régions sinistrées. Vous avez Mauléon dans les Deux-Sèvres, le taux de chômage y est très bas.
Mais
la ville s'est prise en main avec tous les acteurs locaux. Ils ont fait l'inventaire des chômeurs de longue durée. Ils se sont aperçus d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de handicapés, parce que comme il y a le taux de chômage est bas, ce sont pour une partie substantielle des handicapés qui ne trouvaient pas de travail. Et ils ont constitué leur entreprise. Et ce qui est intéressant, Mauléon, c'est qu'ils sont pratiquement à ce que nous appelons l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de file d'attente. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont souhaité travailler ont pu travailler à deux ou trois près.
L'objectif, Louis Gallois, c'est d'arriver en 2022 avec un zéro chômeur, cet objectif de zéro chômeur de longue durée dans les 10 territoires. Depuis 3 ans que ce dispositif a été mis en place, quel bilan d'étape en faites-vous ?
Nos convictions départ se sont trouvées vérifiées. C'est que personne n'est inemployable, c'est-à-dire que les personnes ont des compétences, je le disais, ont envie de travailler, c'est celles qui rejoignent cette expérimentation. Deuxièmement, les emplois utiles existent, il y en a beaucoup. Et troisièmement, les subventions de l'État sont compensées très largement par les économies réalisées ou par les recettes que créent c'est la distribution de ses salaires.
Il y a débat sur cette question et on va en parler dans un instant. Tout le monde n'est pas d'accord avec votre analyse. Ce projet, il a été lancé donc sous François Hollande et maintenant charge au gouvernement Macron de le rendre pérenne ou bien de le stopper. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, devait se prononcer en janvier. Nous sommes le 2 février. Quelles nouvelles avez-vous eues de Muriel Pénicaud ?
Nous avons actuellement un travail avec le cabinet de la ministre, un travail d'ailleurs qui est très positif, justement pour faire converger notamment ces estimations de coûts que vous évoquiez et de subventions. Mmh. Et ce travail devrait conduire à une annonce d'une deuxième loi qui permettrait d'étendre cette expérimentation à plus de territoires, parce que actuellement, comme vous le disiez, à 10 territoires, eh bien, il faut qu'il y en ait plusieurs dizaines.
Et si cette expérimentation devient pérenne, cela ne pourra se faire qu'au prix d'ajustements, semble réclamer le gouvernement. Quel type d'ajustement ?
Eh bien, nous sommes en train de discuter de cela avec le gouvernement. Les principes fondamentaux de cette expérimentation soient respectés. Les principes fondamentaux, d'abord, c'est qu'on va vers l'exhaustivité. On n'y arrivera pas partout et rapidement. Parce que quand vous êtes dans une zone politique de la ville, vous n'arrivez pas à l'exhaustivité rapidement. Mais c'est l'objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'on ne choisit pas les publics. Ce sont toutes les personnes privées d'emploi depuis plus d'un an. Ces personnes ont pu travailler un tout petit peu dans l'année précédente. Mais ce que nous souhaitons, c'est que les personnes qui sont en précarité depuis plus d'un an puissent accéder à cette expérimentation.
La question, c'est celle du coût annuel. Est-ce que ça coûte plus cher, un peu plus cher, beaucoup plus cher que le coût d'un
Nous pensons, nous avons fait des calculs et nous sommes prêts, nous en débattons avec les administrations qui ont fait d'autres calculs.
Le Gallois, on va parler des chiffres. Ouais. Le coût annuel d'une personne embauchée à plein temps par votre dispositif, il est non pas de 18 000 euros, comme ça avait été estimé au départ, mais de 26 000 euros, oui, donc bien plus cher. Ce sont les chiffres de l'IGAS.
Mais c'est le chiffre aussi.
L'inspection générale, vous étiez parti de 18 000 euros.
Non, 18 000 euros, c'est le salaire de la personne. Mais à côté de ça, vous avez le salaire...
On parle des salaires chargés, tout de même.
Non, le salaire chargé est à 18 000 euros. Il reste à 18 000 euros.
Ça veut dire avec les cotisations sociales.
Non, pas du tout. 26 000 euros, c'est le coût complet. C'est-à-dire y a la dotation aux amortissements, des investissements, il y a le financement des dirigeants qui ne sont pas des personnes conventionnées, il y a toutes les dépenses d'exploitation qui ne sont pas des dépenses de personnel. C'est pour cela qu'il faut du chiffre d'affaires, pour couvrir l'écart entre ces 18 000 euros et ces 26 000 euros.
Bon, au final, est-ce que vous avez bon espoir de voir cette expérimentation d'un zéro chômeur de longue durée devenir pérenne en 2022?
Écoutez, c'est un tel espoir sur les territoires où ça s'est pratiqué que je ne vois pas comment on pourrait arrêter cela. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement souhaite poursuivre. J'ajoute...
Vous pensez que le gouvernement souhaite poursuivre?
Oui,
c'est la teneur en ce moment.
Madame Pénicaud s'est exprimée dans ce sens. Monsieur Macron s'est exprimé également. Je pense que nous aurons une deuxième loi. Évidemment, nous souhaitons qu'elle arrive le plus vite possible parce qu'il y a une centaine de territoires qui sont candidats.
Vous trouvez que le calendrier ne va pas assez vite?
Écoutez, on cherche à l'accélérer.
Et vous pensez qu'on supporte de moins en moins les inégalités dans notre société alors qu'elles se creusent de plus en plus?
Je pense qu'on supporte de moins en moins les inégalités, d'autant plus qu'elles se creusent. Et je pense que c'est un des problèmes, non pas de la France, parce que c'est dans le monde entier, mais je pense que la situation de creusement actuel des inégalités est insupportable.
Louis Gallois, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi président de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, et à ce titre partenaire de la Nuit de la solidarité,
oui,
pour recenser le nombre de SDF, notamment dans la capitale. Les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, il y a quelques heures, la Fondation vient de rendre son rapport annuel sur le mal-logement, en pointant notamment le cas des hommes seuls à la rue, sans enfants à charge, puisqu'ils ont seuls, sans enfants à charge, ils ne sont pas prioritaires.
Ils ne sont pas prioritaires, mais vous savez,
aux hébergements.
Le gouvernement, il faut le reconnaître, a créé beaucoup de places d'hébergement. Mais les besoins croissent plus rapidement que cette croissance des places, si bien qu'il y a énormément de personnes à la rue.
Mais a-t-on les moyens de ne plus hiérarchiser les priorités?
Alors justement, la question, c'est que nous voyons progressivement s'instaurer des priorités. Vous avez des enfants de plus de 3 ans, vous pouvez rester à la rue. Vous avez des enfants de moins de 3 ans, on vous loge.
Peut-on faire autrement?
Je pense qu'on peut faire autrement.
Il faut créer des
places d'hébergement. Il est absolument anormal que seulement la moitié des personnes qui sont des demandeurs d'asile trouvent une place dans les structures spécialisées. La totalité des demandeurs d'asile devrait pouvoir être logée dans les places spécialisées. Actuellement, ils sont dans les centres d'hébergement qu'ils saturent. D'autre part, il va falloir créer des logements très sociaux. Les logements très sociaux, on est à 34 000 par an actuellement. Nous disons qu'il en faut 60 000. Et le gouvernement lui-même s'était fixé un objectif de 40 000 qu'il n'atteint pas.
Avec des pénalités que les municipalités payent si elles ne remplissent pas leur quota.
C'est ce qu'on appelle le DALO, le droit au logement opposable. C'est-à-dire que si une famille a droit au logement et ne l'obtient pas, l'État paye une pénalité. Nous souhaiterions, nous, qu'il loge les gens plutôt que de payer des pénalités.
La grande pauvreté est-elle aussi la grande oubliée des politiques sociales des gouvernements successifs?
Je ne vais pas dire ça. Mais ce que je constate, c'est que au cours de l'année 2019, la seule catégorie de la population dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, c'est les 10% les plus pauvres. Toutes les autres catégories de la population ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Et je pense que c'est une situation qui n'est pas normale. Il faut en particulier augmenter le RSA. On ne peut pas vivre avec 550 euros par mois. C'est pas possible.
Ce n'est pas ce que semble dire le gouvernement actuel.
La grande pauvreté, elle vous indigne toujours autant. Et pourtant, on se dit aussi qu'elle est mal connue, en fait.
Elle est mal connue parce que les pauvres ne manifestent pas, ne s'expriment pas. Et ne pouvant pas s'exprimer, ils ne sont même pas gilets jaunes. Ils sont plus pauvres que les gilets jaunes. Ils ne s'expriment pas, on ne les voit pas. Nous essayons, nous, associations, d'être leur porte-parole, autant qu'on le peut. Mais c'est une population qui a une difficulté à se faire connaître.
Avant la grande pauvreté, vous venez de le dire, il y a les gilets jaunes. Est-ce qu'il vous semble que le gouvernement a répondu favorablement, positivement, au désarroi des gilets jaunes qui ne savent plus comment faire entendre leur grande détresse avant de sombrer, eux aussi, dans une plus grande pauvreté?
Je pense que le gouvernement a fait un effort considérable.
Un chèque de 16 milliards.
Des chèques importants, d'ailleurs, qui ne bénéficient pas aux très pauvres, mais qui ont bénéficié à cette population. Et j'ai trouvé que c'était un geste positif. Le problème des gilets jaunes...
C'était pas un geste opportuniste?
Bon, écoutez, j'en sais rien. C'est un, 16 milliards, c'est une somme considérable. C'est presque un point de PIB. Ce que je crois, c'est que le malaise des Gilets jaunes est beaucoup plus profond que cela. C'est un malaise territorial. Une partie de la France a l'impression d'être laissée à l'abandon. Qu'on ne s'occupe pas d'elles, que le train passe et qu'ils ne peuvent pas monter dedans, que tout est fait pour les métropoles, pour les gens qui sont engagés dans le mouvement, dans la mondialisation, et que ils restent sur le quai. Et je pense que, excusez-moi cette analogie ferroviaire, mais je crois que c'est extrêmement important d'aller vers ces populations, vers ces territoires, pour leur dire non, vous faites partie de la communauté nationale, il faut le leur montrer.
Vous évoquiez ferroviaire, une dernière question à l'ancien patron de la SNCF, oh là là. Hugues Gallois. Ça concerne les primes versées par les actuels dirigeants de la SNCF à des non-grévistes, entre 300 et 1500 euros versés à ceux qui ont fait rouler les trains pendant la grève. Les syndicats crient au scandale. Est-ce que ce sont des méthodes, des récompenses qui étaient déjà de mise lorsque vous étiez président de la SNCF?
Je ne crois pas qu'elles étaient de mise, mais je me garderai bien de répondre à la question que vous me posez.
Vous n'avez plus de mémoire?
Non, j'ai tout oublié.
C'est-à-dire...
Vous votez en touche, là.
Ah oui, c'est un joker.
Je pense que vous avez une bonne mémoire.
Juste tout de même pour insister sur le climat social de la SNCF et sans juger de ce qui s'y passe, mais ce sont des primes qui risquent de durcir un peu plus le climat social à la SNCF. Qu'aviez-vous fait, vous, en tant que président de la SNCF, pour apaiser les querelles de syndicats en temps de grève et pour apaiser les tensions qui ont toujours été très fortes à la SNCF?
Moi, je ne peux pas comparer les deux périodes.
Sans comparer, mais juste votre expérience.
À mon époque, les choses étaient plus calmes parce que nous n'étions pas en plein bouleversement. Actuellement, la SNCF est en plein bouleversement, la concurrence arrive, il y a l'évolution du temps également qui fait que il faut que la SNCF bouge aussi, et effectivement, ça travaille le corps social des cheminots au corps, et comme on le sait, ils réagissent habituellement avec une certaine vigueur.
Vous êtes aussi président du conseil de surveillance de PSA qui va devenir un groupe encore plus gros avec Fiat, avec Chrysler. Oui. Ce ne sont que ces grosses dimensions européennes qui pourront aujourd'hui avoir droit de cité dans le monde?
Je pense que c'est pas oublié, la taille ne fait pas tout. Mais nous avons besoin de la taille pour deux motifs. Le premier, c'est qu'il va falloir que nous amortissions d'énormes investissements pour passer à l'électrique, notamment. Nous allons participer à la construction d'une usine de batterie. Il va falloir absorber la production de cette usine. Et si vous le faites sur une base plus large, c'est évidemment vous amortissez mieux les coûts. Et deuxièmement, l'intérêt de cette fusion est également de nous ouvrir sur le marché américain. C'est très très difficile de rentrer sur le marché américain. En Fiat Chrysler, c'est 2,5 millions de voitures aux États-Unis.
Cette fusion PSA Fiat Chrysler, c'est à quelle échéance?
C'est d'ici à fin de l'année. Bon, actuellement, on n'a plus qu'à obtenir les autorisations, notamment celles de Bruxelles et des autorités.
Eh bien, merci Louis Gallois, président du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et qui a beaucoup moins de mémoire quand il s'agit d'évoquer la SNCF. Merci beaucoup et bonne journée.